Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir, à l'occasion des 10 ans des éditions de l'Antilope, Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus, leurs deux fondateurs. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Je crois qu'on peut dire qu'on vous connaît bien sur l'antenne de Radio Shalom. Vous êtes un peu ici chez vous. Gilles Rosier, vous êtes romancier, traducteur du yiddish, de l'hébreu et de l'anglais, ancien directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Anne-Sophie Dreyfus, vous êtes éditrice, forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'édition littéraire, scolaire et jeunesse, et également traductrice de l'anglais. Et vous avez fondé les éditions de l'Antilope en janvier 2016. 10 ans plus tard, c'est à peu près 50 titres publiés, une collection de poches et une ligne éditoriale très reconnaissable. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que le pari fondateur que vous vous étiez fixé est tenu?
Alors là, moi je dirais, sous contrôle de Gilles, qu'il est plus que tenu. Parce que je n'imaginais pas personnellement qu'on arriverait à se développer comme ça, tranquillement, très, très tranquillement, mais quand même qu'on se développerait et réussirait à tenir 10 ans, plus tenir encore les 10 ans à venir.
Alors je vais compléter ma question, Gilles, vous pourrez répondre dans un instant. La naissance du projet est liée à votre unité, à vous deux, à votre double unité. Et j'ai employé le mot de naissance parce que, en fait, vous avez fondé une maison d'édition un peu comme vous avez fondé votre famille. Est-ce que vous considérez ça comme un nouvel enfant et que vous le laissez un peu libre d'évoluer comme il le souhaite, de grandir comme il le souhaite?
Ça a été aussi, enfin, à part notre passion, chacun, Anne-Sophie qui travaillait déjà dans l'édition, moi qui étais dans la littérature, c'était une façon de réaliser notre passion, mais aussi de poursuivre une relation autrement, en fait, effectivement. Et pari tenu, au début, on s'était dit on va publier 5 livres par an, et on a publié 5 livres par an jusqu'à maintenant, une fois. Une année, on a publié 6, une année 4. Mais sinon, c'est pour ça qu'au bout de 10 ans, on est à 50 titres. Donc, on est, vous savez, nous, on est... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est les bourrins de l'édition, c'est-à-dire que...
Les artisans.
Les artisans. Artisans, oui, mais on ne fait pas... Les chevaux de la bourre. Hein. On ne fait pas de coups. Il y a des éditeurs qui font des coups, qui tout à coup... Nous, on y va doucement, mais sûrement.
En fait, vous êtes les antilopes de l'édition. une créature vive, gracieuse, parfois perçue comme exotique. Finalement, un peu aussi à l'image de l'existence juive. Est-ce que 10 ans après, cet animal incarne toujours votre mission?
Ben oui, je crois. Récemment, quelqu'un nous a fait un compliment en disant « Vous avez réussi dans des temps qui ne sont pas simples, parce qu'on a traversé on s'est créé juste après l'attentat du Bataclan. On a traversé le Covid, on a traversé le 7 octobre et ses suites. Et en fait, on a toujours réussi à rester sur une ligne de crête. C'est-à-dire que en fait, les gens nous disent, on n'est pas une maison d'édition polémique, on n'est pas une maison d'édition politique, pourtant ce serait facile de l'être dans le cadre de la culture juive en général, et c'est aussi notre marque.
Mais c'est notre choix fondateur, c'est-à-dire le choix c'est la littérature, les livres, mais les livres au sens de la littérature vraiment.
Et puis sinon, pari tenu aussi, parce qu'on avait très envie de mettre en avant la littérature yiddish, la littérature hébraïque, d'autres littératures et la littérature française, et grosso modo notre catalogue se partage en 4 de cette manière, quasiment à égalité, je dirais. C'est un gâteau 4 quarts, l'Antilope.
Oui. Alors vous avez réussi à garder une cohérence intellectuelle. Est-ce que vous pensez que le public vous a trouvé, que le public y voit justement cette cohérence par rapport à ce que vous disiez, un catalogue avec de la littérature yiddish, hébraïque, s'ouvrir à d'autres langues et en même temps à la littérature française, des questions d'identité, de mémoire, de transmission, de langue, de territoire. Est-ce que c'est cohérent, selon vous, pour votre public?
Alors, je pense que le public trouve à l'Antilope, en tout cas notre public, d'abord notre public évolue, c'est-à-dire que le public d'il y a 10 ans peut être le même qu'aujourd'hui, mais il y a heureusement un nouveau public qui arrive en permanence, enfin je l'espère, en tout cas on le voit aussi dans l'évolution de nos rencontres. Et je pense que le public de l'Antilope, de toute façon, peut trouver, en effet, s'il est plus sensible à la littérature yiddish, forcément, il trouvera plus de richesse du côté du yiddish ou de l'hébreu ou du français. En tout cas, une présence juive. Alors, je vais reconnaître une petite faiblesse, c'est que la présence juive dans le monde arabe n'est pas forcément très représentée en littérature. Et on n'a pas beaucoup trouvé, c'est vrai, d'auteurs qui nous ont proposé des choses. Alors peut-être qu'on ne les a pas encore assez cherchés, mais on ne les a pas beaucoup trouvés jusque-là.
On a reçu des manuscrits, mais jusque-là, il y en a certains qui nous ont convaincus, mais moins que des manuscrits qui venaient du monde européen ou israélien, je dirais. En ce qui concerne donc il faut quand même bien préciser que on a fait le choix de la littérature, mais de la littérature juive. Et quand on a démarré, quand on a dit, vous savez, vous allez aux États-Unis, vous dites Jewish literature, les gens comprennent très bien. D'ailleurs, dans toutes les librairies, c'est écrit Jewish literature. Dans les librairies françaises, vous avez la littérature yiddish qui est en Moyen-Orient, à côté de la littérature israélienne. Donc, on est un peu perdu et les gens nous disaient « Mais c'est quoi la littérature juive ?» Et il y a des gens qui nous écrivaient en disant « Je suis juif, donc je vais pouvoir publier chez vous. » Ou alors « C'est dommage, mes héros sont juifs, mais je ne suis pas juif, donc je ne peux pas publier chez vous. » Donc, on précise. Nous, on ne regarde pas l'identité de la personne. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu du livre. Dès que ça a une relation avec l'existence juive, soit parce que les héros sont juifs, soit parce qu'ils ne sont pas juifs, mais ils regardent la société juive, comme ça a été le cas du livre de Daniela Carmi, une écrivaine israélienne, qui met en scène une femme arabe israélienne qui regarde la société israélienne autour d'elle et qui rigole tellement elle trouve qu'elle est un peu folle, cette société. Et donc en fait, c'est, pour nous, c'est la définition de la littérature juive.
Et puis, il y a un autre ingrédient dans la recette de ce succès, c'est la qualité. C'est que vous choisissez avec soin les auteurs de votre catalogue. Si j'ai bien compté, 40 auteurs vivants ou disparus, 50 livres publiés à l'Antilope, 26 titres à l'Antilope Poche, sans compter les versions numériques. C'est pas mal.
Bravo, vous avez fait un sacré travail.
On vous embauche pour la comptabilité.
C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été surprises parce qu'on a refusé leurs manuscrits alors qu'ils avaient déjà une carrière littéraire ou d'essayiste derrière eux et un nom. Mais nous, notre principal critère, c'est est-ce que ça nous plaît ? Est-ce qu'on voit ce livre à l'Antilope ? Et il nous arrive assez régulièrement. Je me souviens d'avoir répondu à une femme. Je lui ai dit, je suis sûr que vous allez trouver un éditeur parce que votre livre est bien, mais il ne correspond pas exactement à ce qu'on essaye de faire.
Et puis nous, on voudrait aussi, à chaque fois qu'on publie un auteur, le défendre. Et si on n'est pas capable, comme on est vraiment des artisans, si on n'est pas capable de le défendre, on préfère renoncer.
Alors, vous parliez de nos lecteurs. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir qui sont nos lecteurs. Mais c'est vrai que la création de la collection de poches a élargi le cercle. Parce que, bon, les poches sont deux fois moins chères que les grands formats. Donc, ça permet à des gens qui ont moins de moyens d'accéder aussi à nos livres. Et donc, on a pas mal élargi le cercle. Mais surtout, ce qu'on remarque par rapport à d'autres éditeurs, quand on est dans des salons du livre et qu'on expose tous nos livres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui arrivent dans le salon en disant « Tiens, ça j'ai lu, en revanche ça j'ai pas lu » et qui repartent avec 3 ou 4 livres. Comme si, enfin, c'est une collection aussi, l'Antilope. Et les gens, donc Anne-Sophie disait, ceux qui sont plus sensibles à la littérature yiddish vont plutôt acheter du yiddish, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font confiance à la marque en disant « Bon, ben voilà, tel auteur yiddish, j'en ai jamais entendu parler, mais les livres de l'Antilope, en général, ça me plaît, donc je vais essayer ».
Alors, je peux dire, j'ose dire, vous allez me contredire ou pas, qu'il n'y a pas de tabou dans le choix de votre catalogue. On peut parler de tout, d'homosexualité, de transsexualité, de religion, d'antisionisme. De drogue. ça fait du bien quand même d'être un peu libre.
Ah oui, et surtout, ça ne fait pas seulement du bien d'être libre, ça fait du bien de publier des choses qu'on aime. Et c'est ça aussi, peut-être, la liberté. Et c'est vrai, quand vous dites qu'il y a de tout, un prochain livre va s'appeler « Les contes racidiques de mon père ». Et ce seront vraiment des contes racidiques, c'est-à-dire on est dans l'ultra-orthodoxie new-yorkaise, enfin racidique, de New York. Et c'est vrai qu'on va de l'ultra-orthodoxie je ne sais pas comment dire, à la laïcité la plus totale.
Au dealer de banlieue, comme on disait.
Au dealer de banlieue, c'est vrai, à la prison de Fleury-Mérogis.
Ou détective queer de Tel Aviv.
C'est vrai. C'est
Est-ce
vrai.
Qu'on pourrait dire que c'est ça finalement qui fait le succès de l'Antilope? Si vous, en une phrase, vous deviez définir son esprit de la maison d'édition, qu'est-ce que vous diriez?
Disons que quand on dit aux gens de la littérature juive, les gens nous disent « Oh là là, mais c'est très serré comme niche. » Mais à l'intérieur, on prend la thématique vraiment par tous ses aspects et par tous les bouts. Et donc, effectivement, les gens qui nous suivent nous disent « Vous nous surprenez. »
Mais parce que nous-mêmes, quand on est surpris par un manuscrit, on a tendance à être séduit. Enfin, toi et moi.
Oui.
Oui, ou on peut ne pas être d'accord aussi. Ça m'est déjà arrivé en vous lisant. Et puis, on s'énerve un peu sur le moment et on se dit, finalement, il y a du débat.
Absolument, bien sûr. Oui,
c'est vrai qu'on, nous aussi, on débat.
Alors, à l'occasion des 10 ans des éditions de l'Antilope, une soirée spéciale sera organisée le mardi 13 janvier 2026 à 20h au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est un spectacle littéraire et musical qui a été conçu par Sabil Goussoup, un de vos auteurs, je crois.
Oui. Alors, par Sabil Goussoup, Anne-Sophie et moi.
Et vous-même, voilà, j'allais dire, et vous deux. Alors, il y aura des lectures, musique et dessins. Et dès 2016, je crois, ce même lieu avait accueilli une de vos autrices,
la
comme
première.
Deux sœurs. Pour la présentation de Comme deux sœurs, l'ouvrage de Rachel Chalita. 10 ans plus tard, est-ce que c'était dans la continuité que vous avez choisi ce lieu? Comment, et puis surtout, comment est née l'idée de cette forme artistique particulière?
Ah, ça, c'est aussi notre plaisir.
Oui. Alors, on a proposé hommage parce qu'on a été tellement touchés qu'ils nous fassent confiance à la création de la maison pour la première rencontre avec la première autrice. L'auditorium était plein, donc on avait rempli. Ils nous avaient dit, on espère que vous allez remplir, on a rempli.
Voilà.
Et donc, quand on leur a proposé, Paul Salmona et Sophie Andrieux, la directrice de l'auditorium, Joseph Hirsch, nous ont dit, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alors, la forme, je dois avouer que ça nous est venu quand on est allé à la soirée organisée par la revue K, qui avait fait un spectacle. Plutôt que de faire une série de conférences, ils avaient fait un spectacle. Et on a été assez séduits par ça. Donc on a eu envie, sur la thématique de « Et si on crée une maison d'édition ?» puisque ça a été le titre de l'article d'Alexandra Schwarzbrod dans Libération, quand on a créé la maison, la quatrième de couverture de Libération, s'appelait « Et si on crée une maison d'édition ?» Donc on a repris cette idée, et donc on a conçu un spectacle autour de cette thématique.
Alors, une musique assurée par Smadge, des dessins de Charles Berberian, une mise en espace, c'est encore mieux, par Gabriel Debré, des auteurs, David Naïm, Nathalie Zaïdé, Cédric Ramadier et Talila, mais un joyeux bordel, non?
Vous verrez bien, mais alors Cédric Ramadier, il n'est pas auteur, c'est notre graphiste.
C'est votre graphiste.
Et il va faire une présentation, bon, on a fait des répétitions évidemment, une présentation qui est formidable. Vraiment, il va expliquer comment il a conçu la charte graphique de la maison et comment il conçoit les couvertures.
Alors, ça aussi, il faut en dire un mot, parce que vos ouvrages sont facilement reconnaissables par leur couverture qui est de grande qualité, et que si on lit le livre, on n'a pas honte non plus de le laisser traîner sur sa table basse dans le salon.
Merci pour ces compliments.
Ah oui, tant mieux. Tant mieux. Alors, en fait, quand on a créé la maison d'édition, c'est vrai que notre premier souci a été en effet la forme graphique, la charte graphique comme on dit, et la forme, ça peut être travaillé par des éditeurs, mais celui pour moi qui apporte cette créativité, cette création, c'est un graphiste. Et en l'occurrence, je connaissais bien Cédric pour avoir travaillé longtemps avec lui. Et donc, quand on lui a proposé le projet, il a tout de suite dit oui. Et il nous a fait des propositions à partir d'un brief. Donc, pour nous, l'idée essentielle, évidemment, on s'appelle l'Antilope, mais c'est la littérature juive. Alors, le rapport entre l'Antilope et la littérature juive est un petit peu compliqué. Eh bien, il a tout de suite réagi et il expliquera pendant cette soirée comment il a conçu cette forme.
Et c'est vrai que dès le départ, en fait, on avait pris quelques modèles dans l'édition contemporaine. Et dès le départ, on s'est dit, il faut que nos livres soient reconnaissables. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui changent de couverture à chaque livre. Nous, on avait tout à fait l'intention que, pour créer cet effet collection, justement, ce soit le cas. Et quand on a créé la collection de poche, on s'est dit, il faut, dans la tête des gens. Quand ils voient un livre de poche, qu'ils voient tout de suite que c'est un livre de poche de l'Antilope. Et d'ailleurs, la collection s'appelle l'Antilope Poche.
Donc une identité visuelle comme une identité aussi dans la ligne éditoriale. On n'a pas parlé des traductrices et des traducteurs qui jouent quand même un rôle essentiel aussi dans votre catalogue.
Bah, essentiel, oui, on en a une dizaine, je crois. Ouais. Vous n'avez pas compté le nombre si...
Ça, non, pas encore.
oui, c'est essentiel. Parce qu'on peut rappeler que quand on lit un livre d'un auteur étranger, ce n'est pas le texte de l'auteur qu'on lit. C'est le texte du traducteur ou de la traductrice. Donc, c'est absolument essentiel. Et on passe... Anne-Sophie s'occupe du travail éditorial avec les auteurs et avec les traducteurs. Et elle passe autant de temps avec une traductrice à revoir le texte qu'elle peut le passer avec un auteur ou une autrice sur son propre texte.
Donc, une soirée anniversaire, le mardi 13 janvier, hommage en début de soirée. Comment on fait si on est une auditrice ou un auditeur de Radio Shalom pour s'inscrire ?
Alors, il faut aller sur le site du musée et prendre une place, hein, parce que c'est, bon, en l'occurrence, c'est un spectacle payant, ça coûte 10,50 €. Il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et là, je suis sérieux, hein, c'est pas juste pour remplir la salle, il en reste quelques dizaines, donc voilà.
Oui, absolument.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, sur Radio Shalom, en compagnie de Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus, qui nous parlent des 10 ans des éditions de l'Antilope. On a parlé un peu du passé, on parle de cette soirée. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant dans les éditions de l'Antilope ? Il y a, je crois, en février prochain, un nouveau livre, Dernier Ciel, Michel Marx, un nouvel auteur dans votre catalogue.
Absolument. Nouvel auteur, on espère bien que vous le recevrez dans votre émission.
Plaisir.
Et donc un nouvel auteur qui nous est arrivé par la poste.
Hein, oui.
Et qui n'est pas, c'est pas son premier livre, il a déjà publié des livres il y a un petit moment. Mais en tout cas, c'est un livre qui nous a conquis. Moi, quand je l'ai lu, c'est en gros un homme qui, à la fois, la même semaine, décide de partir à la recherche de sa famille disparue pendant la guerre, et en même temps est contacté par des anciens copains de collège qui lui disent « ce serait bien qu'on se fasse une bouffe ». Et en fait, c'est l'alternance entre ces deux histoires où d'un côté, il y en a qui parlent de foot, de pinard, etc. machin, et lui qui se pose des questions existentielles sur « mais comment est-ce que mes proches ont été assassinés pendant la guerre ?» Ça, c'est très fort, en fait. Et c'est ce qui nous a vraiment plu. Et en plus, c'est très bien raconté. Ça nous a vraiment plu dans ce livre.
Très drôle aussi. Enfin, très grave et très drôle aussi.
Il raconte des choses graves, mais de manière assez drôle.
Alors, on essaiera de le recevoir dans cette émission. Est-ce que plus largement, quand on fête les 10 ans d'un projet, on a envie de changer quelque chose ou on reste dans la continuité ?
On évolue.
En fait, on est en train de faire rentrer un troisième larron, c'est-à-dire que l'antilope, ça va devenir une antilope à 6 pattes. Un garçon qui s'appelle Anthony Lachegar, qu'on a connu parce qu'il est Instagrammeur littéraire. Il nous soutient depuis quasiment le début, il adore notre ligne éditoriale. Et donc, on lui a proposé de rejoindre l'équipe. Voilà.
Félicitations.
Et depuis plusieurs mois, il travaille avec nous. Enfin,
depuis septembre.
Septembre. Et il prend plaisir, dit-il, mais nous, on prend beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et c'est vrai que ça rajeunit peut-être un peu, ça modifie nos façons de voir, notamment en termes de communication, enfin en termes de là où on est assez faible et fragile.
Et de sensibilité aussi, parce qu'il est d'origine juive d'Algérie, séfarade, nous on est... Anne-Sophie est d'origine alsacienne, moi d'origine polonaise, donc ça complète la diversité.
C'est du métissage.
Absolument.
Voilà. Et puis
absolument.
Un sang neuf, ça fait toujours du bien. Le contexte du livre est difficile à l'heure actuelle. Est-ce que pour vous, vous le sentez aussi en tant que maison d'édition indépendante ?
Bien sûr qu'on le sent, mais alors, comme dans tout, je vais plutôt adoucir le propos, c'est que cette année, pour nous, on a eu la chance d'avoir Nathalie Zaïda qui a donc publié chez nous La Patiente du Jeudi, qui est un formidable roman, et qu'elle défend vraiment, enfin elle participe à la défense de ce roman avec nous, et elle est formidable, et le roman est formidable, et donc le roman marche bien pour l'antilope.
Très bien, ouais.
Et ce qui fait que cette année, on souffre moins que si on avait... que globalement,
oui,
bah, si on avait...
a fait le même chiffre d'affaires avec un livre en moins. Donc, ça veut dire qu'on a...
C'est bien, on a plutôt... Ouais.
Donc, des dépenses en moins,
et
etc.
Et puis, on confirme aussi, parce qu'on a ce gros projet autour de Peretz Markish, donc un énorme auteur yiddish. On a publié là donc, un roman, Une génération passe, une génération vient, et un recueil de poèmes en bilingue yiddish-français, Le Ta, et autres poèmes. C'est vrai qu'on ne pourrait pas faire ce genre de projet lourd, en termes de traduction, en termes de fabrication. On ne pourrait pas le faire si on n'avait pas aussi des romans comme celui de Nathalie Zaïdel. Ouais.
Et sans les soutiens institutionnels.
Et sans les soutiens institutionnels,
voilà,
ou combien.
Des aides de fondation et du conseil régional. Je précise d'ailleurs que la soirée du
hommage
des 10 ans de l'Antilope, le 13, est faite avec le soutien financier du conseil régional d'Île-de-France.
C'est vrai.
C'est une question difficile parce que quand on a plusieurs enfants, c'est difficile de choisir lequel on préfère. Et vous avez cité un titre. Est-ce que dans votre catalogue, il y a un auteur, une autrice, un ouvrage, un thème que vous aimez particulièrement ? Alors, chacun à votre tour, vous pouvez y répondre.
Moi, j'ai pas de chéri particulier. On a une tendresse particulière pour notre première autrice, Rachel Chalita, dont on a publié 3 livres, le dernier étant sorti en 2025.
Leur mot à eux.
Voilà, c'est vraiment un compagnonnage extraordinaire. Avec Sabil Goussoub, parce que je précise que Sabil Goussoub participe à la création du spectacle, mais il ne publie plus à l'Antilope. Il a publié deux livres chez nous, mais on reste extrêmement proche de lui. C'est plutôt les personnalités. En ce qui concerne les textes, moi, j'aurais du mal à dire quelque chose.
Ah oui, là, je
joue. Non plus.
Moi, je dis comme vous dites. Quand on a des enfants, on les aime tous. Et là, enfin moi en tout cas. Et là, vraiment, j'ai beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. Alors, évidemment que j'ai cité les derniers parce que ce sont les derniers, les Peretz Markish ou Nathalie. Mais en fait, à chaque fois, le suivant, ça va être aussi celui que je vais préférer. Donc.
C'est l'avantage de ne publier que ce qu'on aime. C'est que, bon, on regrette jamais de... Même si, parce que... Évidemment, on a plus ou moins d'affinités avec les auteurs ou avec les traductrices, les traducteurs. Donc, l'expérience est plus ou moins agréable, je dirais, ce qui est normal, c'est de l'humain. Mais les textes restent. Donc, on n'a pas. Moi, je n'ai aucun regret d'aucun des titres qu'on a publiés.
Absolument.
Vous nous rappeliez en introduction que 10 ans, le contexte était quand même assez compliqué. Il y a eu des attentats, il y a eu le 7 octobre. Est-ce que, finalement, la ligne que vous poursuivez n'est pas une sorte mariage, on est encore dans ce vocabulaire-là, plutôt que de divorce, et permet aux juifs qui sont divisés, ou même au public non-juif qui aussi est divisé, eh bien, de se retrouver avec quelque chose qui tient la route et qui reste constant?
Alors moi, j'ai tendance à penser que ça n'est pas que le fait de l'Antilope, mais la littérature nous entraîne là. C'est-à-dire que, puisque vous nous posez la question, donc je suppose que vous faites référence aux clivages énormes qui sont dans les paroles ou dans les petits messages qu'on reçoit sur des écrans et qui sont tellement rapides et tellement clivants et tellement... Non, la littérature, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui permet justement d'être spectateur actif. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde un film ou quand on regarde un écran avec un petit message. On est spectateur actif. Et ça veut dire quoi être spectateur actif ? Ça veut dire que forcément, on ressent des émotions et on a cette capacité de réfléchir aussi, de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive, ce qui est contraire à ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, me semble-t-il. Et donc, je continue d'être convaincue que la littérature... nous entraîne là dans cette capacité de réfléchir, de prendre du recul, de ne pas s'arrêter à quelque chose de clivant, violent, difficile.
Est-ce que vous êtes d'accord, Gilles ? Finalement, la littérature réussit là où tout a échoué, notamment le politique.
Je suis d'accord. Il faut aussi préciser que autant Anne-Sophie que moi, autant à la table d'Anne-Sophie qu'à la mienne, on a toujours reçu toutes sortes de gens. Le spectacle de l'Antilope, il est co-conçu par Sabil Goussoub, qui est arabe, chrétien, franco-libanais. Charles Berberian, l'illustrateur, il est arménien, né au Liban, et sa mère est née à Jérusalem, je crois. Enfin, donc, il y a beaucoup de diversité. et c'est ce qu'on aime faire. Et beaucoup de gens nous demandent si on a été boycotté après le 7 octobre, hein, enfin dans le contexte actuel, pas du tout. Alors, il y a toujours des mauvais coucheurs, enfin, il y a, pas du tout. Il y a...
Oui, on n'en sait rien.
Non, on n'en sait rien, mais enfin, disons que notre chiffre d'affaires ne s'est pas effondré, le nombre de librairies qui commencent nos livres ne s'est pas effondré. Le rabbin Kaufmann me disait, moi, je fais toutes les librairies pour voir si vos librairies sont toujours là. Je lui dis, mais rassurez-vous, nos livres sont toujours là.
Parce que c'est arrivé à d'autres auteurs, à d'autres éditeurs.
C'est possible, oui. En l'occurrence, nous, ça ne nous est pas arrivé. On n'a pas reçu de messages agressifs.
Ouais, moi, je ne les ai pas entendus, en tout cas.
Une fois au Festival du Livre de Paris, notre alternante a expliqué à une cliente qu'on publiait de la littérature juive et elle s'est reçue une réaction extrêmement agressive une fois. Voilà.
Est-ce que finalement, pour faire passer un message universel, il ne faut pas rester au particulier ? De continuer à rester ferme en mettant en avant eh bien, des récits incarnés autour du monde juif, de la littérature juive, eh bien, ça ouvre la voie à des tas de messages ou de voix vers tout le monde, vers l'universel.
Moi, je le crois.
Vers l'humanisme.
Moi, je le crois, mais ça donne raison à ce que je fais, mais en fait, à ce qu'on fait. Mais c'est en effet, j'ai envie de dire, c'est en effet la raison pour laquelle je continue de faire des livres avec tellement de plaisir. Et je crois que bah, c'est ma place, c'est de faire des choses que j'aime et que je sais faire.
Je vais vous donner deux exemples. Jonathan Berg, écrivain israélien, qui écrit un livre qui s'appelle « Quitter Psagot », où il raconte le quotidien de son enfance dans une colonie juive de Cisjordanie. C'est un livre extrêmement universel. Hayley Vick, qui raconte son enfermement dans les cachots, puis dans les bagnes du Tsar au début du XXe siècle. C'est un livre extraordinaire sur l'humaine condition. Voilà.
C'est magnifique. J'avais une question un peu polémique à vous poser, que certains se posent, et dont moi parfois, quand on travaille souvent, tout le temps, sur la thématique juive, est-ce qu'on n'en a pas marre parfois et on se dit on va faire autre chose ? Est-ce que ça vous traverse l'esprit parfois ?
Sur la thématique juive, non.
Non ?
Les juifs, des fois, j'en ai marre, mais pas la thématique. Non, moi, je suis venu au judaïsme, hein, puisque je n'ai pas du tout été élevé dans la culture juive. Ma mère était une juive élevée dans le communisme. Mais depuis les 18 ans, ça traverse ma vie et ça ne cessera de la traverser.
Ouais. Pas de lassitude non plus, Anne-Sophie ?
Ah, moi, pas. Je suis construite sur cette identité juive. Et quand j'ai rencontré Gilles, je pense que ce qui nous a réunis, c'était ça, justement. Et quand on a eu envie de créer une maison d'édition, ça ne pouvait être que sur la base d'une littérature juive.
Eh bien, je pense que ce que vous dites, le public le sent, et c'est sans doute pour ça qu'on prend plaisir à lire vos ouvrages. Il y a une question classique, rituelle, pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs, eh bien, de venir aux 10 ans de l'Antilope. Alors, j'ai cru comprendre que c'était compliqué parce qu'il reste peu de place, ou de lire le plus possible d'ouvrages de votre catalogue. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Moi, je dirais, laissez-vous surprendre.
Anne-Sophie, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile parce que j'aurais dit un peu la même chose. C'est, on publie des choses qu'on aime et qui nous surprennent. Donc, j'espère que vous allez aimer et vous laisser surprendre par les ouvrages publiés par l'Antilope, mais pas que par l'Antilope.
Et je crois que ce qu'on essaye de transmettre, c'est de la bienveillance, de la sérénité, le fait d'avancer sans trop être entravé par la violence du monde.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté dans cette émission de parler de cet anniversaire, les 10 ans des éditions de l'Antilope, qui auront lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le mardi 13 janvier 2026. Et puis, je vous souhaite bon anniversaire, longue vie aux éditions
beaucoup.
De l'Antilope.
Merci,
et on se retrouve très bientôt sur ce plateau.
Bon, merci beaucoup.
Merci, Sandrine.